Seigneur Dieu, trois fois saint, nous te demandons d'être au milieu de nous, avec nous, dans nos cœurs et nos pensées, afin que nous recherchions toujours à mieux discerner, entendre et pratiquer ta parole. Amen. Alors nous abordons le deuxième chapitre de ce cours intitulé « Le Seigneur, sa loi et son peuple ». Autrement dit, nous allons en quelque sorte reprendre dans ce chapitre ce que nous avons déjà vu dans le premier chapitre, mais en nous centrant davantage sur la loi. Nous savons que le Seigneur est le saint, le juste, le bon, et il suffit de consulter une concordance pour voir tous les textes qui nous décrivent le saint, le juste, le bon. Aussi sa loi qui reflète en quelque sorte son caractère est-elle sainte, juste et bonne? Là, c'est l'apôtre saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 7 qui déclare que la loi est sainte, juste et bonne. Mais c'est ce qui est dit tout au long du psaume 119, ce psaume extraordinaire qui est une louange, si l'on peut dire, de la loi de Dieu, ou plus exactement une louange du Dieu qui donne sa loi. Donc, la loi, selon l'Écriture, est le reflet du caractère moral de Dieu. Précisément parce que Dieu est celui qu'il est, sa loi reflète ce qu'il est. Et donc, une connaissance de la loi va de pair avec une connaissance de Dieu, ou plus exactement, il y a une réciprocité entre la connaissance de Dieu et la connaissance de la loi. Plus je connais la loi de Dieu, mieux je vois qui Dieu est, et plus je contemple ce que Dieu est, et mieux je peux saisir la beauté de sa loi. Vous savez que la conclusion de l'Ecclésiaste, ce petit livre assez extraordinaire, dont on ne parle peut-être pas assez, la conclusion de l'Ecclésiaste est la suivante: crains Dieu et observe ses commandements. Et c'est une reprise, au fond, de ce que disent tous les livres sapientiaux de la Bible. La sagesse est la suite, la conséquence de la crainte de Dieu. Nous n'avons pas en français, au fond, d'équivalent aux mots hébraïques. Les Anglais ont cela quand ils disent « O, A-W-E ». C'est cela, la crainte de Dieu. C'est le respect adorant de Dieu. C'est dommage que nous n'ayons pas d'équivalent. En français, on est obligé d'employer une périphrase et de dire « respect adorant ». Car c'est ça qu'il y a aussi bien derrière l'expression hébraïque que derrière l'expression anglaise qui la traduit. Bien entendu, dès le départ, dès la création d'Adam et d'Ève, dès le départ de l'Alliance de grâce, l'Évangile précède toute directive. Et la porte, c'est l'Évangile qui porte la loi. C'est l'Évangile qui précède la loi. Mais la loi accompagne aussitôt, inséparablement, l'Évangile. Les Adam et Ève n'ont pas eu à construire leur propre justice par leur obéissance à la loi. Ils ne sont pas justifiés par les œuvres de la loi. Je parle avant la chute. Mais ils reçoivent cette justice de la grâce, de la bienveillance, de la bénédiction du Seigneur. Et cette bienveillance leur a été signifiée avant tout commandement. Et après la chute, Adam et Ève ne retrouvent leur justification que par l'Évangile. L'Évangile qui comporte désormais avant toute autre bénédiction, celle d'un pardon mérité, sans qu'il le sache, par le sang d'un sacrifice divin, celui de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, 2. Il y a dans des volumes récents de Pierre Marcel, le titre m'échappe pour le moment, il me reviendra peut-être tout à l'heure, il y a un commentaire de cette parole. L'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Ça aussi, je parlais ce matin du mystère. Là aussi, il y a un mystère. On ne nous dit pas l'agneau dont il est prévu qu'il sera immolé dès la fondation du monde. Ça, nous le comprendrions. Mais c'est bien plus mystérieux. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Et dans son article, dans un chapitre du livre dont je vous parle, de Pierre Marcel montre que la plupart des traductions escamotent le texte grec. On s'arrange pour dire autre chose que ce que le texte dit. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est une parole qui va très loin. Et on peut dire donc que l'évangile annoncé à Adam et Ève, le fameux protévangile, est tenu par cette réalité, même s'il n'en est pas question dans toute la Bible hébraïque de façon directe. On peut dire qu'en tête de l'Écriture sainte, précédant l'Écriture sainte comme un chapiteau, il y a cette parole, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ça c'est l'entête vraiment de toute la Bible. Et maintenant, Adam et Ève ne sont plus appelés, comme avant la chute, à la foi seulement, mais à la foi et à la repentance. À la foi et à la repentance. Vous savez que chez plusieurs des pères de l'Église et chez certains théologiens de la Réforme, il y a l'idée de Saint Adam et de Sainte Ève. Et pour la plupart des pères de l'Église et pour plusieurs des réformateurs eux-mêmes, Adam et Ève sont les premiers pécheurs, mais ils sont aussi les premiers saints, au sens de justifiés par la sainteté du Christ, parce qu'ils se sont repentis, parce qu'ils ont cru. Non, c'est tout un sujet, là aussi, qui pourrait faire l'objet d'un mémoire, et je ne peux pas m'y appesantir plus longtemps. Mais les directives de Dieu, autrement dit la loi, restent les mêmes, les lois restent les mêmes, les directives de Dieu restent les mêmes pour Adam, Ève et leur descendance. Le mariage et la procréation, le repos hebdomadaire à l'image du repos de Dieu après les six jours de la création, l'ordre culturel, la différence entre l'avant et l'après la chute, découle du fait du péché originel, et c'est que désormais sont inaugurés pour chaque personne humaine un dur combat spirituel qui va aller jusqu'à l'agonie de la mort. Genèse 3, 14, 15 indique ce combat spirituel, et je dirais aussi Genèse 3, 19. Maintenant, alors que les choses, si je puis dire, se trouver dans une sorte de paix. Maintenant, les choses sont dans une sorte de guerre. C'est dans la paix qu'Adam et Ève vivaient avant leur chute, tandis qu'après la chute, même ayant s'étant repenti, ayant retrouvé le pardon de Dieu, ils vont avoir à mener un dur combat spirituel qui durera jusqu'à la mort. sans compter bien sûr les difficultés de tous ordres dans la vie de la femme, de l'homme, du couple, dans leur exercice de l'ordre culturel qu'ils ont reçu, parce qu'il y a une malédiction qui modifie l'environnement animal, végétal et minéral. Nous avons lu d'ailleurs le texte concernant cette malédiction ce matin, Genèse 3, 14, 19. L'homme, image de Dieu, avait été placé en tête des créatures subhumaines, en tête de la création subhumaine, comme roi, sacrificateur et prophète, et la chute n'a pas seulement entraîné la propre corruption de l'homme, mais a entraîné pour la création subhumaine une soumission à la vanité, une servitude qui l'a fait soupirer et attendre avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est le grand passage de Romains 8, Romains 8, 18, 22. C'est un passage très important de l'apôtre Paul et qui montre ce qu'a entraîné la chute de l'homme pour le cosmos, pour l'environnement subhumain. La terre va produire des épines et des ronces. C'est à la sueur de son front qu'il faudra marcher dans le travail et dans la culture. C'est un monde pénible, c'est-à-dire un monde qui coûte de la peine, que l'homme maintenant va avoir comme environnement. Après le déluge et lors du renouvellement de l'alliance de grâce avec Noé et les siens, d'une certaine manière, tout recommence. D'ailleurs, l'arche elle-même, ce serait important, vous avez des commentaires très remarquables de Ben Ham, un professeur d'un collège anglican d'Angleterre, sur le livre du Lévitique, dont je vous recommande la lecture. C'est tout un ensemble d'images aussi. Par exemple, l'arche est une sorte de reproduction en miniature de la création, avec ces trois étages qui correspondent aux trois niveaux de la création. Il nous est spécifié qu'il y a trois étages de l'arche en Genèse 6, 16, et ça correspond aux trois niveaux de la création tels qu'ils apparaissent à notre expérience sensible. En haut, les cieux, en dessous, la terre, et plus bas que la terre, la mer. Et la colombe, planant au-dessus des eaux, ne rappelle-t-elle pas l'esprit planant au-dessus des eaux au début de la création? Il y a donc un recommencement avec Noé. Et ce recommencement nous est indiqué non pas seulement par les paroles de l'alliance que reprend Dieu avec Noé, comme il l'avait fait avec Adam et Ève, mais par le fait que l'arche est une représentation du cosmos et qu'il y a cette description d'un oiseau qui maintenant va, avec un brin d'olivier dans le bec, planer autour de l'arche comme l'esprit planer. Le verbe d'ailleurs hébraïque là signifie planer si l'on veut, mais ça peut signifier aussi comme lorsque un oiseau couve ses œufs, comme un oiseau peut préparer l'éclosion de ce qui va poursuivre sa vie. Eh bien, nous nous trouvons une fois de plus, si vous voulez, devant ce point que je vous soulignais déjà ce matin, c'est-à-dire que la Bible est un livre de paroles, mais par un grand nombre de ces paroles, c'est un livre d'images. Autrement dit, nous devons visualiser beaucoup de choses. Calvin, d'ailleurs, dans l'institution, comme dans ses commentaires, fait remarquer que nous ne sommes pas des anges, des créatures purement spirituelles, mais que nous sommes des créatures corporelles et que nos sens, et en particulier l'ouïe et la vue, doivent entrer en compte. Quand nous lisons l'Écriture, nous devons essayer de comprendre le sens des paroles, le sens des mots, mais en même temps, nous devons laisser se dessiner devant nous les images que beaucoup des paroles de la Bible nous proposent. Alors ça, c'est particulier, en particulier à la Genèse, c'est particulier aux livres poétiques, ce qui se comprend très bien, c'est particulier à beaucoup de pages des prophètes, en particulier du prophète Ézéchiel, et c'est aussi ce que nous voyons par les paraboles de Jésus dans le Nouveau Testament. La Bible est un livre de paroles, c'est sûr. C'est d'abord même un livre de paroles. Mais à cause d'un grand nombre de ces paroles, c'est en même temps un livre d'images. Et au fond, nous devons nous laisser aussi porter, impressionner par ces images. Alors, avec le renouvellement de la loi, de l'alliance avec Noé, nous voyons quand même deux différences. Les deux différences portent sur deux points curieux, d'ailleurs, à première vue. La première différence concerne la nourriture. Maintenant, la nourriture animale est donnée à Noé et à ses descendants. Genèse 9.3, à comparer et à opposer, en un certain sens, à Genèse 1.29. Et l'autre, concernant le droit de légitime défense, donner aux membres de l'Alliance de grâce ce droit allant jusqu'à l'exécution capitale, c'est indiqué dans Genèse 9 au verset 6. Donc voilà les deux différences. Au fond, entre le temps de la chute, le temps où apparaît Caïn, et enfin, le temps où apparaît Caïn, il y a eu d'abord Adam, et non, mais je veux dire, ça se développe avec la lignée caïnite, jusque à Noé, jusqu'au déluge, au fond, les descendants de Seth, la lignée des fils de Dieu, n'a pas le droit d'user de la force. Mais Dieu, maintenant, sait qu'il peut être nécessaire d'opérer certains cas de légitime défense, et que, dans certains cas, même, la vie peut être redemander aux criminels. Là où nous voyons la différence, si vous voulez, c'est très net. Rappelez-vous que Caïn, après son crime, après le meurtre d'Abel, reçoit de Dieu un signe pour que Caïn soit épargné. C'est très curieux, on n'a pas le droit de toucher à Caïn. On n'a pas le droit de punir Caïn, et surtout, on n'a pas le droit de punir de mort Caïn. Eh bien, c'est ce qui est le changement maintenant. Dieu, voyant jusqu'où peut aller la méchanceté de l'homme, met une limite à cette méchanceté, met des bornes à cette méchanceté en autorisant la légitime défense et, au besoin, l'exécution capitale. Au renouvellement de l'alliance, alors ça c'est le seul changement que je vois, mais il faudrait travailler la question davantage, entre, si vous voulez, le système légal qui va d'Adam jusqu'au déluge, et le système légal qui va à partir de Noé, après le déluge. Il y a un changement sur les deux points, changement sur le point de la nourriture, et changement sur le droit d'employer la force dans le cas de la légitime défense. Au renouvellement de l'alliance avec Abraham, il y a un développement de l'évangile, de la bonne nouvelle, avec les trois promesses dont je vous ai parlé ce matin. Peuple, terre, bénédiction spirituelle pour toutes les nations de la terre. Mais il y a dans ce que Dieu donne comme directive précise pour les descendants d'Abraham, non pas tellement de nouveautés, mais il y a deux points qui ont leur importance, qu'on peut regarder rapidement. L'une qui nous est indiquée au chapitre 17, verset 1 de la Genèse, quand Dieu dit, je ne vous lis pas ça, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, le Seigneur lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est la première fois que cette expression est employée, El Shaddai, dans la Bible. Là aussi, il y a une modification quelquefois des noms donnés à Dieu à chaque étape de l'alliance. Là aussi, ça peut faire le sujet d'un mémoire. Il y a des noms différents qui sont successivement donnés à Dieu. Là, avec Abraham, apparaît ce nouveau nom de Dieu, le Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Et il est indiqué, je te multiplierai à l'extrême. Là, si vous voulez, il y a comme une, vous direz, c'est une reprise. Mais enfin, la nouveauté, c'est que maintenant, c'est une multitude de nations qui sortiront d'Abraham. Et cela implique certainement toute une question au sujet de la démographie, mais là aussi, nous ne pourrons pas insister plus longuement. Et l'autre passage, qui, à mon sens, apporte une légère nouveauté, c'est au chapitre 18, les versets 17 à 19. Le Seigneur avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham redeviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alors là aussi est annoncé un peuple qui sera une nation grande et puissante. Et il nous faut voir, bien sûr, dans un premier temps, le peuple comme étant le peuple saint d'Israël, mais aussi au-delà, un peuple en bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et là, c'est l'indication de l'Église. Donc, si vous voulez, il y a une portée là qui va loin, puisque là, il ne s'agit pas seulement de la multiplication du nombre des gens, le point démographique que je soulignais, mais là, c'est plus le point démographique, mais c'est le point d'une la constitution d'un peuple saint qui sera finalement composé de toutes les nations de la terre. Maintenant, nous allons aborder avec Moïse la loi d'une façon beaucoup plus développée, bien sûr, parce que, comme Jésus l'a dit, la loi a été donnée par Moïse, Jean 1, 17. Et c'est ce qu'avait déjà annoncé la Torah elle-même, Moïse nous a prescrit la loi, Deutéronome 33, 4. Donc on peut parler légitimement de la loi mosaïque, la loi donnée par Dieu à Moïse. La loi, la Torah, notre Pentateuque, est l'écrit premier et fondamental de l'Écriture sainte tout entière. Et on peut dire que la loi est pour l'essentiel, et dans une très grande diversité, la loi est l'œuvre de Moïse. Et je dirais, c'est bon de savoir que Jésus lui-même le déclare, la loi a été donnée par Moïse. Dans un tout vraiment un et dans une diversité vraiment plurielle. Et alors là, nous abordons un point dont on parle quelquefois pas assez en dogmatique, me semble-t-il. Je ne parle pas de votre profession dogmatique, Paul Wetz. Parce que ça, moi, j'ai jamais suivi des cours de dogmatique de Paul Wetz. Mais je parle des traités de dogmatique, des importants traités réformés. Je ne parle pas d'institutions chrétiennes seulement, mais je pense aux œuvres d'hommes comme Dabney, ou Hodge, ou Berkhof aux États-Unis, ou comme Cunningham en Écosse. Dans l'ensemble, si vous voulez, on ne souligne pas assez la révélation trinitaire dans l'Ancien Testament. Et l'on fait comme si le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu analogue au Dieu de l'Islam, au Dieu du Coran. Or, je crois que c'est une grande erreur. Nous n'avons pas non plus à développer cela maintenant, puisque pour nous il s'agit de la loi, mais vous allez voir le rapport avec la loi. J'ai dit tout à l'heure que la loi reflétait le caractère moral de Dieu. Mais la loi, dans son unité et dans son caractère pluriel, reflète aussi le caractère un et pluriel de Dieu. Je vous ai parlé ce matin de la rencontre d'Abraham avec ceux ou ces mystérieux visiteurs. Il y en a un auquel Abraham dit « tu », il y en a trois auxquels Abraham dit « vous ». Et il y a comme une réalité trinitaire dans cette rencontre de Dieu avec son ou ses visiteurs. Mais il y a beaucoup plus que cela dans l'Ancien Testament. Enfin, je veux dire, il y a plus que cette seule rencontre d'Abraham avec son mystérieux visiteur. Il y a tout ce qui est dit de l'ange du Seigneur dans l'Ancien Testament. L'ange du Seigneur, dont je pense, ce n'est pas moi qui l'invente, mais je pense avec beaucoup d'autres que l'ange du Seigneur est une figure voilée de la personne du Fils de Dieu. Et il est question aussi dans l'Ancien Testament de l'Esprit du Seigneur. Et je dirais, on s'aperçoit dans tous les textes où il est question de l'ange du Seigneur ou de l'Esprit du Seigneur, qu'il s'agit vraiment de deux autres personnes que Dieu dans la Trinité. Autrement dit, il y a celui qui est appelé le Seigneur Dieu, il y a l'ange du Seigneur et il y a l'Esprit du Seigneur. Et il faut aller plus loin aussi, là aussi il y a une recherche exégétique à pousser davantage, mais c'est au sujet de Michaël. Michaël, dont on a souvent, et dont on continue à faire souvent, un ange, c'est-à-dire une créature angélique. Mais je pense que, vous savez que le mot Michaël signifie qui est comme Dieu, qui est comme Dieu, un petit peu comme dans le prologue de Jean, il est question de la parole qui était avec Dieu, qui était comme Dieu, qui était Dieu. Et au fond, Michaël, en particulier, à mon sens, là éclate dans le livre de l'Apocalypse, n'est pas du tout, c'est le chef des anges, mais ce n'est pas un ange chef des anges, mais c'est le Dieu le Fils chef des anges. Et je dirais, le combat entre Michaël et le dragon, c'est sous deux images le combat de Jésus-Christ contre Satan, contre le diable. Et alors là aussi, il faudrait voir quelle est la place de Michaël dans l'Ancien Testament. Bon, enfin, vous voyez, je vous ai dit que je vous ouvrirai un certain nombre de portes, enfin, je vous rappellerai certaines portes qui ont été ouvertes bien avant moi, et pour lequel il y a tout un travail de recherche théologique, de recherche exégétique à faire. Alors, voilà le lien. De même que la sainteté morale de Dieu est reflétée dans la sainteté morale de la loi, de même le caractère un et pluriel de Dieu est reflété dans le caractère un et pluriel de la loi. Car la loi est une et plurielle. Là aussi, il ne faut pas pousser la comparaison. Pas plus qu'on ne pousse la comparaison entre le caractère moral de Dieu et le caractère moral de la loi. Je dirais, bien sûr, il faut les rapprocher, puisque dans la loi, il y a un reflet. Mais là, il faut voir l'organisme de la loi. Tout d'abord, il y a un commandement central. Commandement central. Vous savez que le commandement central de la loi nous est dit dans deux versets du chapitre 6 du livre du Deutéronome, c'est ce que les Juifs sont tenus encore aujourd'hui de réciter tous les jours, ce qu'on appelle le Shema Israël, écoute Israël, avec la parole très simple, mais qui est très importante, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, le Seigneur, notre Dieu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, et le Seigneur. Le mot « un » ici, d'ailleurs, n'est pas dans le sens monothéiste de l'islam, mais dans ce sens qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Que Dieu est le seul Dieu. Dieu est le seul Dieu. Alors ça, c'est le commandement central. Je répète, voilà la parole, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ce commandement, dont quelquefois on étonne les gens quand ils vous disent oh, mais Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Puis on dit, mais c'est pas Jésus qui l'a inventé. Jésus ne fait que reprendre le commandement central qui est donné dans le Shema Israël, dans l'écoute Israël, du chapitre 6 du Deutéronome. C'est le commandement qui domine tous les autres et qui est leur raison d'être. C'est parce que Dieu est le Dieu qu'il est qu'il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et alors, ce commandement central entraîne à sa suite, on peut dire quasi inséparablement, le commandement qui lui est semblable, mais qui est quand même second par rapport au commandement central, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, c'est dans une parole du Lévitique au chapitre 19 et au verset 18. Si on prend la parole en entier, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Ah, c'est très important parce que c'est ce qui fait le lien. Parce que Dieu est le Seigneur qu'il est et qu'il a créé l'homme à son image, affirmer que l'on doit aimer le Seigneur oblige en quelque sorte ou est suivi inséparablement du commandement de l'amour du prochain. Alors nous avons donc un commandement central, bientôt accompagné d'un commandement qui lui est semblable, et puis autour du commandement central, et en développant et précisant le sens, il y a les 10 paroles, le décalogue. Le décalogue en grec, ça veut dire 10 paroles, et il vaut mieux dire les 10 paroles que les 10 commandements, parce qu'en fait, il n'y a pas seulement des commandements dans les 10 paroles. Il y a aussi des promesses, il y a aussi des affirmations, il y a aussi des menaces, il y a plus que 10 commandements. Disons que les 10 commandements sont inclus dans les 10 paroles, mais les 10 paroles ne se réduisent pas à 10 commandements. Alors on a le commandement central, avec son accompagnement du commandement qui lui est semblable, le décalogue, et alors autour, encore, on a les très nombreuses directives de la Torah, c'est-à-dire de l'ensemble du Pentateuque. Et avec souvent les conséquences au cas par cas. Alors là, je voudrais aussi vous signaler, on a dit beaucoup de mal, surtout depuis les provinciales de Pascal contre les jésuites, on a dit beaucoup de mal de la casuistique. C'est parce qu'il y a deux formes opposées de la casuistique. Il y a la casuistique que l'on trouve dans la Torah, c'est-à-dire les prolongements des commandements fondamentaux dans des cas par cas. Des cas par cas, d'ailleurs, où ne sont pas toujours impliquées seulement une des 10 paroles, mais quelquefois plusieurs des 10 paroles. C'est pour ça qu'on ne peut pas réduire à un seul commandement ce que Dieu nous ordonne dans tel cas. Parce que ce qu'il nous ordonne dans tel cas peut mettre en jeu plusieurs des 10 paroles. Et de toute façon, ça met toujours en jeu le commandement central, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton pensée. Alors ça, c'est la bonne casuistique. C'est-à-dire que la casuistique biblique, la casuistique de la Torah, c'est une casuistique de fidélité au commandement. Tandis que la casuistique que développaient les jésuites. D'ailleurs, il faut dire que Pascal n'a pas toujours été très juste. On n'est jamais très juste dans les polémiques. Et il y a toujours ce qu'on appelle la rabiesse théologica. Et la rabiesse théologica, l'espèce de méchanceté des théologiens, c'est une réalité, ça existe. C'est déplorable, il faut essayer de ne pas être gagné par la rabiesse théologica. Mais enfin, Pascal a été un peu gagné par la rabiesse théologica, parce que quelquefois, il donnait des citations des jésuites en poussant l'interprétation dans un sens que certainement les jésuites auraient récusé. Enfin, peu importe, de toute façon, il y a eu, c'est vrai, une casuistique, surtout à l'époque du XVIIe siècle, et qui n'était pas d'appliquer les commandements, mais de chercher des moyens de passer à travers. Vous voyez la différence entre une casuistique qui est une application au cas par cas des directives fondamentales de Dieu, c'est la bonne casuistique, et puis la mauvaise casuistique, c'est comment est-ce qu'on peut s'arranger pour passer à travers les commandos et puis essayer que finalement on fasse quasiment le contraire de ce qu'ils disent. Voilà, alors c'est pour ça que le mot casuistique est un mot sur lequel il faut faire attention. Les gens qui ont le plus développé la bonne casuistique, vous le savez peut-être déjà, si vous ne savez pas, je vous l'apprends, ce sont les calvinistes qui étaient les puritains. Il y a eu, au XVIIe siècle, un nombre considérable d'ouvrages casuistiques écrits par des théologiens puritains. Mais quand je dis un nombre considérable, je veux dire des dizaines, et pas des petits volumes, des gros volumes. Pourquoi ? C'est-à-dire que dans des cas qui étaient des situations existantes au XVIIe siècle, les puritains se posaient une question très sérieuse. Voilà un cas qui se présente. Comment est-ce que je puis être aussi fidèle que possible à la loi de Dieu dans cette situation ? Non pas comment je vais pouvoir me défiler, ça c'est la mauvaise casuistique, mais au contraire, comment je peux être dans la fidélité ? Alors, c'est pour ça que je vous demande de faire très attention. Le mot casuistique évoque deux choses opposées. La casuistique de la fuite et la casuistique de l'obéissance. La casuistique de la fuite cherche à esquiver les commandements de la loi, tandis que la bonne casuistique, comme l'était celle des puritains dont je vous parle, c'était au contraire une application fidèle des données de la loi. Et c'est pour ça qu'il y a des cas, il faut le reconnaître, où nous sommes obligés de réfléchir. Il y a des tas de cas, heureusement. La plupart du temps, dans la vie, on n'a pas besoin de longtemps réfléchir pour savoir quelle obéissance on doit au commandement de Dieu. Mais il y a des cas. Il y a des cas où il faut réfléchir. Comme dit Jésus, il y a des cas où il faut s'asseoir. Et puis, bien calculer la dépense, bien voir ce qu'il va falloir faire. On ne se lance pas imprudemment dans n'importe quoi ou trop vite. Il y a des cas où on a besoin vraiment de voir les choses. Moi, une des choses dans l'histoire de l'Église qui me fait de la peine, il y en a beaucoup, surtout dans ma propre vie, mais il y a une chose que j'ai beaucoup de peine à avaler parce que j'ai une grande admiration pour l'homme dont je vais vous parler. Il s'agit de saint Augustin. Vous savez que saint Augustin, le fils de la chrétienne Monique, et qui était devenu d'ailleurs chrétien, comme il le raconte dans les Confessions, à la suite de la prédication d'Ambroise de Milan, et puis il y avait la fameuse parole qu'il avait percutée, pointée, « Tolle et légué, prends et lis », il s'agissait de l'écriture, et finalement il est devenu chrétien, Augustin. Mais la chose terrible, enfin que je vois terrible, c'est que j'ai l'impression qu'il ne sait pas vraiment... assis pour réfléchir et prier un long moment. Il vivait avec une femme, Augustin, à l'époque. Et qui plus est, il avait de cette femme un fils. Eh bien, Augustin, après sa conversion, a envoyé bouler la femme et le fils. Et ça, c'est dur à avaler. Enfin, pour moi... Dans la vie de saint Augustin, c'est une chose que j'ai de la peine à peine à avaler. Comme si le fait de son mariage, qui n'avait pas été célébré à l'Église, mais c'était une union qui avait duré des années, il était d'ailleurs légalement, pas ecclésialement, mais légalement marié, et puis il avait ce fils. Enfin, à partir de sa conversion, ni vu ni connu, il n'en est plus question. C'est quand même, on peut se dire, mais est-ce que dans un tel cas, le chrétien n'a pas à méditer ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est des cas, qui se posent. Alors là, pour Augustin, ça me semble très clair. Il y a des cas plus compliqués. Le fameux cas, par exemple, dans un certain nombre de chants missionnaires, autrefois en Afrique en particulier, qui s'étaient posés, c'est par rapport à la polygamie. Vous voyez, voilà un homme qui, conformément aux mœurs de son pays, avait plusieurs femmes, dont il avait d'ailleurs des enfants. il y avait une famille polygamique. Se poser la question au moment de la conversion. Et là aussi, je dirais, voilà une casuistique indispensable. Je veux dire, dans le cas d'un mariage polygame avec des enfants de plusieurs femmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quelquefois, on ne s'est pas assez posé la question à la lumière de tous les commandements de Dieu. Et alors, quelquefois, certains missionnaires, c'était très simple. Tu choisis la femme que tu considères comme celle à qui tu t'étais engagé en premier, ou celle que tu trouves la plus avenante, ou celle qui peut être le plus utile, et les autres. Les autres, tu fais comme Saint Augustin, tu les laisses tomber. C'est pas possible non plus. Je veux dire, la solution est plus compliquée que ça. Certes, la Bible, et l'enseignement de Jésus dans le Nouveau Testament le confirme, la Bible nous enseigne, c'est la loi concernant le mariage monogamique. Bon, ça c'est vrai. Mais alors, dans le cas où l'on passe du paganisme avec mariage polygamie à la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est une solution si simple? Prendre une des femmes et laisser tomber les autres et les autres. Bien sûr, il ne faut plus vivre en un sens qu'avec une femme. Mais est-ce qu'on ne garde pas une responsabilité vis-à-vis des autres femmes et vis-à-vis des enfants qu'on a eus d'elles? Est-ce qu'on peut se laver les mains comme ça, simplement? Autrement dit, voilà, c'est ce que je veux vous montrer, c'est que la casuistique, c'est l'étude, à la lumière de la parole de Dieu, d'un cas particulier, sur lequel nous ne trouverons pas d'enseignement d'Écriture. L'Écriture ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça. Ça n'y est pas. Ça aurait pu exister, mais ça n'existe pas. Alors on est bien obligé de réfléchir et de dire, au fond, ma responsabilité est engagée. Elle est même engagée polygamiquement et engagée aussi par rapport aux enfants de mes diverses femmes. Bon, mais quelle est l'obéissance chrétienne? La meilleure. Parce que bien sûr, on ne peut pas trouver une solution idéale. Elle n'existe pas dans ce cas-là. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une solution, une obéissance idéale? Il n'y a jamais une obéissance. Notre obéissance chrétienne est toujours une obéissance relative en raison de ce qui reste en nous de péché. Même si le péché ne règne plus sur nous, il habite encore en nous. Et on peut, il n'y a donc jamais un chrétien est toujours un homme qui devra demander pardon à Dieu, qui devra vivre du pardon de Dieu. Et chaque jour nous avons à dire pardonne-nous, ce qui comporte le pardonne-moi, nos offenses, mes offenses. Voilà, nous vivons du pardon. Bon, alors donc notre obéissance à la loi ne sera jamais une obéissance parfaite. Elle ne peut pas, à cause de notre péché, être une obéissance parfaite. Mais disons, quelle est la meilleure obéissance par laquelle je puis témoigner à Dieu ma reconnaissance? Parce que ça, c'est l'enseignement qui est rappelé et résumé dans le catéchisme de Heidelberg. Nous devons trois points dans notre obéissance. Il faut que notre obéissance rende gloire à Dieu. Il faut que notre obéissance soit l'expression de notre foi et de notre reconnaissance. Et il faut que notre obéissance soit conforme à la loi de Dieu. Alors, ça ne peut pas être une obéissance parfaite à cause du péché, mais il faut qu'approximativement nous soyons au plus près de ce que nous devons faire. Oui.
Il se trouve qu'en fait, c'est, en pratique, dans le monde, c'est ce que la plupart des gens demandent à l'Église maintenant. Enfin, je veux dire, en tout cas dans les médias, par exemple, oui. Même quand on rencontre des non-chrétiens, ils sont tout le temps à nous dire, bah, qu'est-ce que tu ferais dans tel cas, imagine, voilà, je connais quelqu'un qui est comme ci, comme ça, comme ça, et qu'est-ce que tu ferais? Oui. Et c'est un peu dommage de constater que, bon, enfin, ma connaissance, il y a plus grand développement de choses comme ça, en tout cas.
Ah oui, mais c'est ce que nous avons décliné, je dirais, entre le temps du calvinisme puritain en Grande-Bretagne, puis ensuite en Nouvelle-Angleterre, mais c'est une autre question. Nous avons dévié, à ce moment-là, on répondait aux questions qui se posaient à l'époque. Tandis qu'aujourd'hui, en particulier dans la nouthétique, dans ce qu'on appelait la cure d'âme, c'est un mot affreux, ça. Enfin, on l'appelait comme ça, Seelsorge, disent les Allemands, mais en réalité, je préfère qu'on reprenne le mot nouthésie, qui est le mot du Nouveau Testament, quitte à le définir, à le préciser. Et on voit que ça. Eh bien, au fond, dans la nouthétique, on aborde trop peu la casuistique. Parce que finalement, ce sont des questions. Il y a des choses qui vont de soi. Par exemple, quand on lui dit tu ne déroberas pas ou tu ne commettras pas d'adultère, bon, ça, c'est clair et net. Nous n'avons pas le droit de voler même un œuf, mais nous n'avons pas le droit de commettre l'adultère. Bon, c'est, je dirais, c'est clair là-dessus. Mais il y a des tas de cas où c'est pas clair comme ça, et où on risque, sous prétexte de simplification et de clarté, de créer quelque chose de monstrueux. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit le cas de saint Augustin, abandonnant femme et fils, ouais, il n'a plus voulu les rien savoir. Ou bien le cas de quel est le devoir d'un chrétien qui passe du paganisme et de la polygamie à l'exigence monogamique de la Bible. Qu'est-ce qu'il doit faire vis-à-vis de l'ensemble des femmes et des enfants qu'il a ? Voilà. Alors aujourd'hui, en effet, vous avez raison, il y a des questions qui se posent, que nous posent quelquefois d'ailleurs les gens, et qui attendent une réponse. Et c'est très rare dans une prédication d'entendre ça. D'ailleurs, je dirais que toutes les prédications d'aujourd'hui, à 99%, sont des prédications sans la loi. Dieu, les directives de Dieu, la loi de Dieu... C'est fourré sous le boisseau, on n'en parle plus. C'est très grave, parce que on est en pleine vie artificielle. Et en même temps, on est dans une facilité de vie chrétienne inadmissible. La vie chrétienne, au fond, c'est essentiellement, tu crois en Dieu, et puis du moment que tu crois en Dieu, il n'y a plus de problème, tu es sauvé, alléluia. Ben, non, justement, parce que la foi chrétienne, c'est une foi... avec l'évangile et la loi. Et l'alliance de grâce, nous le verrons plus tard, c'est une alliance de grâce et de loi. Et il ne faut pas escamoter l'une des choses. Biffer l'évangile au nom de la loi ou biffer la loi au nom de l'évangile. D'ailleurs, je dirais qu'en un sens, la loi et l'évangile se confondent. L'évangile n'a aucun sens s'il n'y a pas la loi. Aucun sens. Parce qu'au fond, s'il n'y a pas la loi, alors vraiment, on se demande pourquoi Jésus est allé mourir sur une croix. C'est absolument inutile, Dieu n'avait qu'à pardonner, et puis tout était fini. Et vous connaissez, c'est la fameuse parole de Voltaire, Dieu pardonnera, c'est son métier. Alors, c'est vrai, votre intervention est juste. Il faut presque un renouvellement de la casuistique. Et à cet égard, Dieu sait que j'aurai beaucoup... une chose à dire par rapport à l'Église romaine, mais le nouveau catéchisme catholique, à mon sens, est un très grand progrès, parce que justement, il montre non seulement l'Évangile, avec bien sûr une certaine modération semi-pélagienne, qui est conforme à l'Église romaine, mais enfin avec des progrès quand même. Là, la grâce est beaucoup plus, la nécessité de la grâce est beaucoup plus affirmée. Mais sur le plan éthique, je dis sur le plan éthique, ce catéchisme comporte des progrès très nets. Et je crois que dans nos catéchèses, nos catéchismes, dans nos prédications, nous devrions prendre beaucoup plus de sérieux la Bible. Vous savez, nous en parlerons plus tard. Nous critiquons quelquefois le libéralisme, parce que le libéralisme fait sauter pas mal de pages de l'Écriture. Nous critiquons quelquefois aussi le marcionisme. Alors le marcionisme, il avait réduit l'Écriture au minimum possible. Mais je dirais, nous faisons la même chose. Alors que les trois quarts de la Bible nous donnent les directives de Dieu, nous laissons tomber ces trois quarts. Et nous ne gardons de la Bible que le quart de l'Évangile, parce que ça arrange tout le monde, et ça nous arrange peut-être nous-mêmes. Alors, je crois qu'il faut vraiment retrouver le sens de l'autorité souveraine et universelle de Dieu dans sa loi. Vous savez que classiquement, on distingue dans la loi trois parties, trois sortes de directives. Les directives qu'on appelle cérémonielles, ou quelquefois on les appelle sacrificielles, les directives morales, les directives civiles, c'est-à-dire les directives concernant les sociétés, le mariage, la famille, l'État, etc. Or, je crois que, en effet, nous y reviendrons là-dessus, les directives cérémonielles tombent, mais les directives de morale personnelle et sociale demeurent. Et je crois qu'il y a là tout un travail de recherche de l'ensemble de la loi. Et donc on retrouverait là le juste sens de la casuistique. Maintenant, un autre point important, c'est la question de la tradition. Vous savez que le mot tradition, c'est un mot ambigu. C'est un mot ambigu parce qu'il y a dans l'Écriture, et en particulier dans les Évangiles, une vive critique des traditions humaines sur lesquelles se basaient les anciens, qu'attaque Jésus dans le sermon sur la montagne. Mais je dirais, il y a aussi une juste tradition. D'ailleurs, le mot qui signifie tradition en grec, paradoxis, signifie aussi la transmission. La transmission. Alors, les écrits, nous appelons le Nouveau Testament, et que je préfère pour ma part appeler la tradition apostolique. C'est l'enseignement des apôtres mis par écrit sous la direction du Saint-Esprit. Donc, nous avons une tradition apostolique. C'est ce que les apôtres nous ont transmis sur l'ordre de Jésus-Christ, qui vous écoute, m'écoute, et sous la conduite et sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Bon, alors là, le sens du mot tradition, c'est une tradition divine. La tradition apostolique, c'est une tradition divine. Tandis qu'il s'agit de traditions humaines auxquelles Jésus s'est attaqué. Alors là, nous touchons au point de l'interprétation du sermon sur la montagne. Là, je crois que c'est par ce point que je terminerai mon cours d'aujourd'hui. Si vous vous reportez sur le sermon sur la montagne, vous avez un point important. D'abord, au point de vue de la traduction, vous savez qu'on peut traduire « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens ». Je crois qu'il vaut mieux préférer à cette traduction la traduction « Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens ». Pourquoi il vaut mieux ? C'est parce que « aux anciens », c'est vague, et je dirais on n'est pas dans le contexte historique immédiat. C'est-à-dire que vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, ça c'était courant. Qu'est-ce que faisaient les juifs, les docteurs de la loi et les scribes au temps de Jésus? Ils disaient par exemple Rabbi Jacob dit que, Rabbi Gamaliel dit que, c'était les rabbis, les anciens qui disaient que. C'était courant. Donc quand Jésus dit vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, par les rabbis, ceci ou cela, mais moi je vous dis. Et alors la grande erreur exégétique que l'on fait, d'ailleurs que l'on fait, ça n'est pas innocemment qu'on fait cette erreur, c'est de faire l'opposition entre l'Ancien Testament et la parole de Jésus. Or, nous le verrons plus tard, ça n'est jamais le cas. Ça n'est jamais le cas. Jésus s'en prend, et s'en prend, je dirais, avec une certaine force, à l'enseignement des rabbis de son temps. Et les rabbis du temps de Jésus, nous le verrons, parce que nous creuserons la question dans un cours suivant, les scribes, les docteurs de la loi, et vous savez que le plus important d'entre eux à l'époque était un contemporain de Jésus, pratiquement, c'est Gamaliel, dont Saint Paul reçut l'enseignement à Jérusalem, avant sa conversion, c'était des hommes qui enseignaient avec autorité. Et finalement, on écoutait les rabbins, les anciens, plus qu'on ne lisait et qu'on écoutait la Bible hébraïque. Et c'est là un point important. Il ne faut pas confondre du tout ce qu'enseigne la Bible hébraïque et ce qu'enseigne le judaïsme. Il y a une différence complète, totale, entre la Bible hébraïque et l'enseignement du judaïsme. Justement parce que très vite, les rabbins et les scribes ont inventé quelque chose de vraiment qu'on ne peut pas, comment dire, qu'on ne peut pas étudier. Ils disaient qu'il y avait eu un enseignement écrit de Moïse, c'est la Torah, mais qu'il y avait eu un enseignement oral de Moïse qui s'était transmis de rabbin en rabbin, d'ancien en ancien. Si bien que, comme il s'agissait finalement de la tradition de Moïse orale, elle avait, selon ses rabbins et ses scribes, autant de valeur que la tradition écrite de Moïse. D'ailleurs, le problème est parallèle avec le catholicisme romain au XVIe siècle, au temps de la Réforme. Au fond, à ce moment-là, on disait la tradition apostolique, les réformateurs disaient la tradition apostolique, elle est là, nous l'avons, c'est le Nouveau Testament. Non. Tandis que leurs contradicteurs invoquaient une tradition orale. Et selon cette tradition orale, on pouvait dire ceci, on pouvait dire cela. Donc oui, il y a un certain parallèle entre l'opposition de Jésus et des scribes de son temps et l'opposition des réformateurs et d'un certain nombre de théologiens de leur temps. D'ailleurs, on vous a raconté certainement l'histoire, mais enfin, vous savez qu'il y a eu un jour une grande controverse entre Claude, le pasteur Claude, qui était un des grands calvinistes du XVIIe siècle, et Bossuet. Et la discussion a porté à un moment donné sur le fait de la célébration de l'Eucharistie sous deux espèces. Et Claude disait à Bossuet, mais Jésus a dit, buvez-en tous. Et Bossuet avait répondu cette perle, il avait dit, oui, mais l'Église sait ce que Jésus a voulu dire en disant, buvez-en tous. Et alors Claude a répondu, oui, elle sait très bien que quand Jésus a dit « buvez-en tous », il voulait dire « n'en buvez pas tous ». Voilà, vous avez, là évidemment, c'est un peu caricatural, mais c'est un fait historique. Il y a bien eu dans la controverse entre Bossuet et Claude cet échange de propos. Mais c'est là le point. Le judaïsme enseigné contrairement à la Bible hébraïque, contrairement à la Torah. Alors il faut faire très attention, quand on dit le judaïsme, les gens s'imaginent que le judaïsme, c'est l'Ancien Testament. Tandis que selon Jésus et la tradition apostolique, le judaïsme est en opposition avec l'Ancien Testament. C'est là le point. Et c'est pourquoi ce que dit Jésus dans le sermon sur la montagne, vous avez entendu qu'il ait été dit par les anciens ceci ou cela, mais moi je vous dis, qu'est-ce que fait Jésus? Nous le verrons de près. Jésus ne fait que reprendre ce que dit la Torah pour montrer que ce que dit la Torah est contraire à ce qu'enseignent les anciens, à ce qu'enseignent les rabbins. Alors c'est une discussion serrée qui est là. Et c'est pourquoi il ne faut surtout pas voir une opposition entre Jésus et la loi. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant qu'on l'ait fait, on peut se demander pourquoi on l'a fait, étant donné que Jésus commence son discours, presque tout de suite, après les béatitudes, en disant « Je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. » Et Jésus dit qu'il ne faut pas toucher à un seul mot et même à un seul trait de lettre de la loi. Jésus donc s'oppose aux rabbins de son temps comme champion de la loi. Et de même, l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, est un livre qui n'enseigne aucunement le salut par les œuvres de la loi. Et, je dirais, l'Évangile se trouve dans la Torah et dans la Bible hébraïque. Et là aussi, nous faisons une transposition, quelquefois involontaire, pour nous bloquons judaïsme et Bible hébraïque, et nous opposons la foi chrétienne, nous opposons Jésus à la Bible hébraïque, en croyant simplement attenter au judaïsme. Alors, c'est important pour nous de bien saisir la distinction qu'il faut apporter là. Alors, je m'arrête. Je vous avais dit que je ne voulais pas dépasser une heure pour le cours. Et d'ailleurs, demain matin, je ne dépasserai pas trois quarts d'heure, puisque nous aurons un quart d'heure à récupérer pour que vous puissiez prendre part au culte. Vous savez, la prédication... Il faut la reprendre, je crois, comme elle était dans les premiers siècles. Je ne parle pas du temps apostolique, mais je parle des premiers siècles, jusque vers le 4e, 5e siècle. Et la reprendre aussi comme, à nouveau, les réformateurs l'ont reprise. Quelle était la méthode, la manière de prêcher chez les pères de la grande époque patristique et chez les réformateurs? On ne prêchait jamais sur un verset ou sur un court passage, mais on prêchait toujours sur la suite d'un livre biblique, ou sinon sur la suite, une suite assez longue. Je prends un exemple, par exemple, les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, hein, ou les chapitres 15, 16 et 17 de l'évangile de Jean constituent un tout. C'est d'une part le discours qu'on appelle le sermon sur la montagne dans Matthieu, et c'est d'autre part ce qu'on appelle le discours suivi de la prière sacerdotale dans Saint Jean. Et alors, vous avez là, si vous prenez un livre ou si vous prenez un ensemble, vous allez intéresser l'auditeur en ce sens qu'aucun d'entre eux ne peut y voir une visée. Une visée, j'entends, individuelle. Bon, après tout, quand un pasteur prend un verset, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que quelqu'un dit, oh ça, il a choisi ce verset, je dirais pas tellement contre moi, mais contre Madame Untel ou contre Monsieur Untel. Parce que c'est une parole, et dans une parole, en général, il n'y a qu'un point particulier qui est dit. Ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, je pense au verset dans l'évangile de Jean, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » On ne peut pas dire que ce soit... Bon. Mais je crois qu'il y a intérêt à reprendre la prédication sur des livres de la Bible ou sur des ensembles comme le sermon sur la montagne. Alors, au début, une bonne méthode, me semble-t-il, c'est de prendre des livres pas trop longs. Par exemple, évidemment, on pourrait commencer aussi en disant, bon, ben, si je reste X années dans cette église, je vais prendre au début de la Genèse et puis je verrai bien jusqu'où je pourrais aller. Bon, alors, sans aller de cette façon exagérée, je crois que l'intérêt de suivre un livre biblique, c'est que ce qu'on aura à dire, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne choisissons pas de dire quelque chose. Mais tout à coup, au tournant d'une page, hein, nous nous trouvons devant ça. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et donc, on ne va pas mettre ce passage ou mettre ce livre sous le boisseau, on l'expose. Alors je crois que déjà, il y aurait une grande correction dans nos prédications, d'autant plus que tous les livres de la Bible sont à la fois toujours évangile et loi. Vous pouvez prendre n'importe quel livre de la Bible, c'est toujours un livre où l'évangile est présent, la grâce de Dieu est annoncée, où les exigences de Dieu, les directives de Dieu sont présentes. Et alors là, nous nous trouvons, me semble-t-il, comme prédicateurs, dans une beaucoup plus grande liberté. Parce que nous n'avons pas choisi de dire telle chose à ceux auxquels nous nous adressons. Ça, c'est plutôt de l'ordre de la nouthésie, de la cœur d'âme. Hein. Non, mais là, nous prêchons à l'Église assemblée ce que dit tel livre ou tel long passage de l'Écriture. Alors, l'Évangile va être là, forcément, mais la loi va être là aussi. Parce que les deux sont toujours ensemble, tout au long de l'Alliance. Il y a l'Évangile avec la loi ou la loi avec l'Évangile. Les deux sont toujours présents. Alors, je pense, si vous voulez, que méthodologiquement, un retour à la prédication, d'autant plus que nous sommes très arbitraires souvent, les pasteurs qui choisissent, qui piquent un verset, ou qui piquent telle parabole, ou qui piquent... Bon, pourquoi... Non, mais pourquoi le font-ils? Évidemment, dans quelques cas, comme dans certaines églises luthériennes ou anglicanes ou réformées, on a une... comment on appelle ça? Les lectures du dimanche, hein, de tel dimanche. Voilà, c'est indiqué à l'avance. Alors là aussi, je dis, les lectures qui nous sont indiquées pour aujourd'hui, bon, on ne peut pas dire que je les ai choisies. Je prends la lecture qui est indiquée pour aujourd'hui. Mais je crois que même ça, c'est pas tellement bon. Je préfère... comprennent les suites. Et je vous assure, enfin je le dis par expérience pastorale, vous avez une force formidable. Parce qu'au fond, la Bible ne nous a pas été donnée comme un ensemble d'aphorismes. Elle nous a été donnée en livres. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné des livres? C'est pas pour que nous en détachions une partie ou que nous en piquions un verset, c'est pour que nous considérions un livre. Quand nous lisons un livre, à moins d'être ça, et peut-être les fous font ça. Et en général, quand on prend un livre, on ne regarde pas une page, puis on en tourne dans un, puis on lit une autre page. Non, on lit un livre à la suite. On lit un livre à la suite. Alors moi, je pense, si vous voulez, que notre prédication acquérait une liberté beaucoup plus grande. Ce ne serait pas un esclavage, ce serait au contraire une libération. Parce que, d'abord, on serait libéré de choisir nous-mêmes ce que nous voulons dire. Hein, il peut y avoir des cas extrêmes, évidemment. Il y a des moments, imaginez par exemple une ville qui serait soumise à un violent tremblement de terre, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu le tremblement de terre. Mais en général, je crois qu'il faut prêcher sur des livres à la suite. Alors on peut commencer par des livres très courts. Il y a des livres qui sont très courts. Le livre de Jonas dans l'Ancien Testament est un livre très court. L'épître de Jude dans le Nouveau Testament, ou bien la troisième de Jean, sont des livres très courts. Bon, alors on peut commencer par des... Mais si vous commencez, vous vous apercevrez très vite de la vérité qu'il y a toujours évangile et loi. Loi et l'évangile. Et alors là, on ne peut pas vous, à ce moment-là, vous accuser d'infléchir ou d'aller dans un seul sens ou... Voilà. Vous êtes obligé de parler des directives, elles sont là. Vous êtes obligé de parler dans l'évangile, de parler d'évangile, il est là. Donc, vous suivez votre texte. Alors, on a un exemple fameux, mais enfin, vous le connaissez aussi sûrement. C'est l'exemple de Calvin. Vous savez, Calvin est arrivé à Genève en 1536, et puis il a été fichu à la porte assez rapidement, parce que sa prédication ne plaisait pas. Et alors, il est revenu après un temps d'exil de 3 ans, si je me souviens bien, à Strasbourg. Il revient à Genève, parce qu'on l'a rappelé finalement à Genève, il revient à Genève. Et alors, il est monté en chaire, et il prêchait à ce moment-là sur le livre du Deutéronome. Il a dit, bon, nous en étions au chapitre 25 et au verset 6 du Deutéronome, je lis maintenant, il a continué. Voilà, c'est pour vous montrer quand même que Calvin, comme d'ailleurs les autres réformateurs, ne voulait pas choisir. Parce que là encore, il y a une espèce d'individualisme. Et on ne peut pas répondre à l'individualisme des gens par son propre individualisme. Alors, je réponds à votre question. Étant donné que les gens sont tellement individualistes, il faut les placer devant une objectivité qui ne vient pas non plus de notre choix. Voilà, le texte est là, voilà le livre. Il est comme ça. Ben, nous le suivons. C'est pour les évangiles. Par exemple, on peut prendre l'évangile de Marc, parce que l'évangile de Marc est court, relativement court. Il est plus long, bien sûr, que Jonas ou que Jude, mais l'évangile de Marc, Parce qu'évidemment, l'évangile de Jean, ou l'évangile de Matthieu, ou l'évangile même de Luc, les trois autres évangiles sont beaucoup plus longs pour prendre Marc. Mais je vous assure que, en faisant ça, notre prédication gagne. Et en plus, nous fidélisons notre paroisse. Parce que vous avez commencé quelque chose, on veut connaître la suite. Hein? Alors, je pense que c'est justement, ça exige une grande fidélité aussi de présence. Moi, je suis frappé de voir, ça c'est une chose qu'on ne connaissait pas de mon temps, à savoir que vous avez des pasteurs qui prêchent environ deux fois par mois, quand ce n'est pas une seule fois par mois. Le reste du temps, ils sont en balade. Entendons-nous, ils sont en balade. Je veux dire au sens qu'ils ne sont pas dans leur paroisse. Ils sont dans une autre paroisse, ils font des échanges et tout. Bon. Alors, la prédication est complètement atomique. Hein, un dimanche, puis pendant deux dimanches, plus de pasteurs. Comment voulez-vous prêcher continuellement ? C'est-à-dire que Calvin, vous savez, il faut bien voir les choses. Il ne prêchait pas le dimanche, Calvin, seulement. À Genève, il prêchait tous les jours. Hein, ça, c'est impossible. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse demander à une église de se rendre tous les dimanches à l'église, de se rendre tous les dimanches au temple. Mais c'est pour vous montrer que la continuité de la prédication, c'est la réponse à votre question.
Je vous remercie beaucoup.
Alors, qu'est-ce qui... Oui, allez-y.
Vous avez parlé des trois usages de la loi. L'usage donc cérémoniel, l'usage moral et l'usage civil.
Oui.
Et ensuite,
ça c'est la distinction classique.
Oui, effectivement. Et vous avez dit que l'usage cérémoniel était aboli par la venue de Jésus-Christ, tandis que l'usage moral et l'usage civil étaient toujours valables. Mais jusqu'où peut-on aller quant à la validité de la loi civile, en ce sens que dans l'Ancien Testament, elle a été donnée pour le peuple d'Israël, et encore on peut l'appliquer sans autre aux nations, à l'Église. Est-ce qu'il n'y a pas des différences qui peuvent être légitimes au niveau de, je sais pas, un système politique ou autre? Ou alors est-ce qu'on doit plaquer sans autre la législation et la loi civile telle qu'elle était en usage dans ce testament à notre époque?
Je vous remercie de votre question, parce que je crois que c'est une question extrêmement importante. Une question importante. C'est-à-dire sur laquelle il conviendrait en fait de s'arrêter. Et il faut bien voir que lorsque Dieu a donné la Torah à Moïse, il a quand même aussi donné des indications. Il a donné des indications. En ce sens que vous avez un passage, j'essaye en ce moment de le retrouver, vous avez un passage du Deutéronome, je vais finir par le retrouver, tout au moins j'espère, dans lequel voilà, c'est donc chapitre 7 du Deutéronome, dans lequel, voilà ce que dit Dieu par Moïse, « Tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Le Seigneur vous a fait sortir de la maison de servitude. » Et alors c'est là où il y a la fameuse affirmation, « C'est le Seigneur, ton Dieu, qui est ton Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui garde ses commandements. » Bon, alors, c'est vrai, vous en avez la confirmation dans ce passage, c'est à son peuple que par le ministère de Moïse, Dieu a donné sa loi. Bon, Mais de là à conclure que ce ne serait pas pour les autres peuples, c'est un saut que nous ne pouvons pas faire. Pour quelle raison? C'est parce que si la loi de Dieu exprime le caractère moral de Dieu, si la loi de Dieu reflète à la fois l'unité et la pluralité de Dieu, alors c'est une loi qui a forcément quelque chose d'universel. C'est vrai, c'est une loi qui est donnée à Israël, mais elle est donnée comment ? Elle est donnée justement comme un reflet de ce qu'est Dieu dans son caractère moral et de ce qu'est Dieu dans son unité, sa pluralité. Donc, c'est un reflet qui est celui de la vérité même. C'est pas parce que c'est donné. Alors, qu'il y ait des lois données particulièrement ou spécialement, ou même à la limite, uniquement pour Israël, ça, je crois qu'il faut le reconnaître. Mais ça, je dirais, le texte aussi nous l'indique. Je prends par exemple un exemple. Il a été ordonné, c'est la seule fois où vraiment ça a été ordonné, c'est quelque chose d'ailleurs qui hérisse beaucoup de gens, lorsque Dieu ordonne à Israël d'anéantir les Cananéens. C'est d'ailleurs une sorte de jugement de Dieu sur les monstruosités des mœurs cananéennes. Et il faut passer, il est ordonné à Israël de passer les Cananéens au fil de l'épée. Et ça va même loin, puisque lorsque un chef d'Israël est tenté de désobéir à cet ordre, aussi bien Dieu le reprend en lui disant « Comment je t'avais ordonné de vouer à l'interdit ?» C'était l'expression. « Et tu ne l'as pas fait. Tu as épargné telle population, ou tu as épargné tel trésor, alors que je t'avais donné l'ordre de... » Alors, c'est vrai, il y a des commandements qui n'avaient de sens que pour... La même chose, on ne peut pas tirer de l'ordre donné à Abraham par Dieu de sacrifier son fils, un ordre quelconque allant dans le sens des sacrifices humains. Parce que c'est contraire d'ailleurs à toute l'écriture. Et d'ailleurs on voit bien que là, il y a eu comme une parabole extraordinaire de Dieu et du sacrifice à venir de son fils unique et bien-aimé. Bon, alors, je dirais, là, c'est là où je dirais, une saine exégèse fidèle à l'écriture doit permettre d'avancer. Par exemple, si l'on arrive en lisant le livre des juges à tel ordre d'extermination des Cananéens, bon, on ne peut pas sauter ça, c'est dans la Bible. Mais on peut le faire comprendre au moment où l'on parle du sacrifice d'Isaac par Abraham, la même chose. Je veux dire, autrement dit, la prédication sur un texte quelconque de l'Écriture tient compte aussi du contexte de l'ensemble de l'Écriture. Hein? Et donc, on peut voir ce qui est de l'ordre moral, universel, et de ce qui est d'un ordre particulier, spécifique, donné à telle personne. Ou autre. Je prends un autre exemple. Vous savez que Jésus a eu très peu de temps, il a disposé exactement, si je me souviens bien, de 2 ans et demi, au plus de 3 ans pour son ministère. Or, il fallait que tout Israël soit averti par une espèce de dans le procès que Dieu engageait contre Israël, il fallait adresser à Israël comme un ultimatum. Bon, alors il n'y avait pas d'histoire. Il s'agissait d'aller vite, parce qu'on disposait de peu de temps. Bon, alors qu'est-ce que dit Jésus à ses envoyés, que ce soit les 12 ou que ce soit les 70, il leur dit, allez, pas d'histoire, hein, vous n'allez pas vous encombrer de vêtements, choses, vous n'avez pas besoin de sandales à vos pieds, vous n'avez pas besoin de prendre de l'argent, vous n'aurez qu'à rentrer dans une maison, si on vous y reçoit, eh bien tant mieux, puis si on ne vous reçoit pas, ben, vous allez ailleurs. Bon, mais il s'agit de faire vite, ne vous encombrez de rien, pas de, de bagages, pas de, d'argent. Voilà, il s'agit de parcourir. Bon, on ne peut pas déduire. Qu'est-ce qu'on va déduire d'un texte comme ça? Certainement, on sera fidèle au texte en montrant que l'essentiel qui nous est signifié par ces paroles et ces ordres de Jésus, c'était que il fallait faire vite pour qu'Israël, alerté, soit prévenu. Et sache que où il se convertissait, où il se repentait et se convertissait, ou bien alors le jugement allait venir sur Israël. Alors on montre que c'est ça la pointe du texte, même lorsqu'il y a les détails concernant les bagages et l'argent. Mais on ne peut pas tirer là un enseignement en disant, bon, ben, quand quelqu'un est missionnaire ou évangéliste, pas d'histoire, il ne doit pas prendre de chaussures, il ne doit pas prendre de vêtements de rechange, il n'a pas besoin d'emporter de l'argent dans un porte-monnaie, dans un portefeuille, parce que ce serait une déduction qui ne serait pas fidèle au sens même du texte. Bon, donc, il faut toujours faire une soigneuse exégèse et se poser la question. Quand il est dit telle ou telle chose, est-ce que ça veut dire que nous devons copier littéralement ce qui est dit là, ou est-ce que nous devons comprendre le sens profond du texte, qui est là, je dirais, l'urgence de l'ultimatum adressé à tout Israël, et donc, allez, si on ne vous reçoit pas dans une ville, secouez la poussière de vos pieds, et puis allez ailleurs. Bon, alors là aussi, vous voyez, on pourrait aller loin en disant la manière pour un pasteur de visiter ses paroissiens, c'est de frapper la porte. Si on les reçoit mal, je ne sais pas comment on secourait les pieds aujourd'hui, parce que ça, en Palestine, on avait les pieds dans les sandales, ils étaient pleins de poussière, il fallait même se les laver tout de suite. Quand on allait prendre un repas, on commençait par se laver les pieds, se laver les mains. Bon, on ne peut pas suivre ces indications-là, littéralement, ce serait manquer complètement le sens du texte.
Je pensais plus particulièrement à la législation pénale de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut l'appliquer sans autre à notre époque?
Non, sûrement pas.
Comme le font les théonomistes?
Non, comme font les théonomistes. Comme on dit que font les théonomistes. Je crois que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Parce que l'important, pour moi, enfin, l'importance que je vois dans les théonomistes, c'est qu'au fond, ils nous rappellent que nous ne pouvons pas arracher de nos Bibles telle ou telle page, et en particulier telle ou telle page de la Torah. Nous ne pouvons pas. Parce que ça, c'est pas sérieux. Et je pense, si vous voulez, d'ailleurs, vous avez peut-être lu le livre qui fait la critique de la théonomie d'un point de vue réformé, qui a été publié par Westminster, non? Il y a un livre qui s'appelle Théonomie, une critique réformée. Eh bien, j'ai été frappé de voir que plusieurs des auteurs de cette critique réformée, en particulier John Frame et Paul Thress, voient bien qu'on ne peut pas esquiver la question des théonomistes. Alors, je dis, là aussi, on se trouve toujours, au fond, qu'est-ce qui est littéral? Alors là, moi je crois, si vous voulez, qu'il y a deux sens qu'il faut distinguer. Ce que j'appelais le sens littéral, ça veut dire le sens de c'est ce que Dieu veut nous dire et ce que l'auteur, le prophète ou l'évangéliste a voulu dire. Ça, c'est le sens littéral, ce qu'il a voulu dire. Et le sens littéraliste, c'est de prendre à la lettre des choses qui importent peut-être au sens dans la situation où étaient les personnages, mais qui n'a plus d'importance pour nous, comme par exemple l'histoire que je viens de vous parler des sandales, etc. Alors c'est la même chose pour le droit pénal. Le droit pénal, par exemple, il est dit que c'est si quelqu'un est surpris en adultère, il faut d'ailleurs qu'il y ait au moins deux ou trois témoins, à ce moment-là, il faut le lapider. Je ne crois pas du tout que nous ayons à prendre comme ça la chose. Là où nous pouvons voir, c'est est-ce que l'adultère est une faute grave? Est-ce qu'on peut passer sous silence les paroles de jugement terribles qu'il y a contre l'adultère dans la Torah? Alors, ça on peut le dire. Et montrer que ça allait au point qu'à l'époque, lorsqu'un homme ou une femme était surpris en adultère, et qu'il y avait les témoins pour bien attester la chose, entre nous soit dit, ça doit être très rare. C'est rarissime. Parce que vous savez, pour qu'il y ait deux ou trois témoins qui prennent des gens en fragmenté d'adultère, je dirais presque il faut que ce soit un coup monté. Mais le fait est que c'était puni. Alors on peut, en effet, je crois que dans une société qui serait chrétienne, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une punition d'adultère. D'ailleurs, on peut discuter de savoir. Parce que souvent, la Torah nous dit jusqu'où peut aller la condamnation. Mais elle ne nous dit pas jusqu'où. Mais il peut y avoir des circonstances atténuantes. Je veux dire, il faut quand même qu'il y ait un procès. Autrement dit, il faut peser les choses. Tandis que, bien souvent, on n'examine pas les choses. Je crois que dans la Torah, il y a beaucoup plus de nuances qu'on croit. Et dans ce qu'on appelle la pénologie, c'est-à-dire la doctrine des peines à appliquer, je crois que même les théonomistes, que ce soit Bansen, que ce soit Jordan, que ce soit... ils sont beaucoup plus nuancés qu'on le croit. Et finalement, je crois que Frame et Paul Schreiber, pour prendre que c'est... Et même Davis, qui est celui qui a fait la conclusion du livre dont je vous parle, Théonomie et critique réformée, l'ont senti ça. Et ils disent, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas escamoter des pages de la Bible. Puisque Saint Paul, dans la seconde à Timothée, et au chapitre 3, verset 16, l'important, ce n'est pas tellement qu'ils disent à ce moment-là, toute écriture est inspirée de Dieu toujours. On cite 2 Timothée 3:16 pour démontrer, soi-disant, l'inspiration de l'écriture. La pointe du texte n'est pas là, si on avait à prêcher là-dessus. Bien sûr, on aurait à rappeler au passage que l'écriture est la parole de Dieu, mais l'important, c'est de dire que tout ce qui a été écrit, l'a été, alors là vous avez l'énumération que fait Saint Paul dans son passage, moi je préfère vous le relire tel que, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. La pointe de ces deux versets, 16 et 17, c'est pas du tout sur l'inspiration de l'écriture. Il y a d'autres passages bien plus importants au sujet de l'inspiration. Mais c'est pour dire que l'écriture n'a pas été inspirée. Non, elle est inspirée pour qu'elle soit utilisée, j'allais dire comme un outil, d'ailleurs, outil, utile, c'est la même racine. Hein, c'est l'outil pour enseigner, convaincre. Alors c'est là où je rejoins ce que disait notre frère. Là, qui est en face de moi, son nom m'échappe, mais je finirai par le savoir. Oui, ce que vous disiez au point de vue de la prédication. Je crois qu'il faut savoir que tout passage de l'écriture, tout livre de l'écriture, toute écriture, est là pour enseigner. Il ne faut pas avoir peur d'enseigner. Il y a un côté enseignement. Alors, souvent, la prédication, c'est simplement une exhortation. Exhortation, c'est-à-dire, ça revient toujours au même, si vous voulez, c'est la prédication évangélique typique, ça consiste à dire, vous êtes un pauvre gars, mais si vous venez à Jésus-Christ, voilà, et vous trouverez en lui votre paix, votre justice, etc., réjouissez-vous, alléluia, etc. Bon, évidemment, je schématise. Bon, mais, je dirais, l'écriture n'a pas été faite que pour une exhortation évangélisatrice de ce style. C'est possible. Encore que j'en trouve pas souvent de ce genre dans le Nouveau Testament. Bon, c'est une autre question. Mais l'important, c'est de savoir que notre prédication doit être un enseignement pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Voilà, afin de préparer les hommes de Dieu à toute œuvre bonne. Alors, c'est très important, ça. Alors c'est là où moi je suis théonomiste, sur ce point qu'aucune page de l'écriture, aucun écrit de la Bible n'est là sans que nous en tirions enseignement. Alors c'est une question d'exégèse, ou comme on dit aujourd'hui, d'herméneutique. Moi j'aime pas du tout herméneutique. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est que le mot herméneutique vient du dieu Hermès. Et vous savez ce qu'était le dieu Hermès? Chez les Grecs, c'était le dieu des commerçants, ce qui est encore acceptable, mais c'était surtout, d'ailleurs ça prouve que les commerçants quelquefois, c'était le dieu des voleurs. Si bien que c'est très curieux, on nous vante l'herméneutique, ça veut dire qu'on nous vante un tricheur, un voleur, voilà, parce que ça vient d'Hermès. Hein, herméneutique, c'est... alors on l'oublie ça. Alors je préfère dire exégèse plutôt qu'herméneutique, parce que herméneutique, pour moi, c'est un relent d'assez mauvais goût. Et je pense qu'il voulait que l'exégèse doit nous aider. Bien creuser notre texte, bien voir où est sa pointe. Là aussi, c'est important, parce qu'il y a toujours une pointe. Et alors, le reste, je dirais, c'est pour mettre en valeur la pointe. Alors, de deux choses l'une, ou bien ça tient à une situation. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, secouer les pieds. Ce qui est vrai, et je l'ai éprouvé comme pasteur, vous avez quelquefois des gens, vous leur faites une visite, parce qu'il faut toujours, quand on arrive dans une paroisse, au moins faire une première visite pour connaître les gens. Mais si on a affaire à des gens qui sont hostiles, que vous avez dans un fichier, mais qui au fond n'ont aucun désir de vous avoir, pourquoi est-ce que vous allez perdre votre temps, ou si quelquefois aller visiter, alors qu'il y en a d'autres qui attendent une visite du pasteur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, on peut comprendre ça. Mais je dirais, le détail de secouer la poussière de vos pieds, je veux dire, ça tombe mal, parce que c'était valable. Ça avait un sens dans un pays poussiéreux comme la Palestine, ça n'a pas grand sens chez nous. Et puis d'ailleurs, on voit mal, on se voit mal quittant le soulier, et puis... bon. Alors c'est là où je vous dis, il faut faire attention. Il y a des détails qui, si on les prend à la lettre, ne reflètent pas du tout la situation réelle dans laquelle nous sommes. Alors, il faut... Mais par contre, je crois qu'il y a un enseignement à tirer même de là. Ça veut dire que quelquefois, où Jésus a dit, on l'oublie, ne jetez pas les perles devant les pourceaux. Quelquefois, vous voyez, d'ailleurs, ça va mal, ça, parce que ça veut dire que Jésus acceptait qu'on compare des gens à des pourceaux, ce qui est déjà pas mal, mais en plus, ça veut dire qu'il y a des gens devant lesquels il ne faut pas jeter des perles. Pourquoi ? Parce qu'on va perdre du temps avec eux, c'est du temps fichu qui ne sert à rien, alors que la vie humaine est courte, aussi bien la vie du prédicateur que la vie des gens qu'il visite, la vie est courte, et qu'il faut quand même aussi avoir une notion de la distribution juste de son temps. Pourquoi perdre du temps quelquefois avec certains, encore que vous avez des choses étonnantes, puisque j'en suis à vous raconter des histoires. J'avais la desserte d'une petite ville de 4000 habitants dans ma première paroisse, et il y avait en annexe un petit village de 300-400 habitants, et dans ce village de 300-400 il y avait un docteur d'ailleurs, un type remarquable dont je pourrais faire parler pendant des heures, mais je garde de le faire. Et ce docteur avait dit à sa femme et à sa fille, voilà, je sais qu'il y a un nouveau pasteur, je ne veux pas le voir, et si jamais il sonne, il faudra toujours lui dire que je ne suis pas là. Alors, il a manqué de peau, pauvre type, parce que le jour où j'ai sonné chez lui, c'est lui qui ouvrait la porte. Ni sa femme, ni sa fille n'étaient là. Et alors, comme il était docteur, il s'est imaginé dans un premier mouvement que peut-être j'étais un patient. Il m'a fait rentrer. Alors, donc, c'est lui qui m'a fait rentrer. Et je dirais, nous sommes tellement devenus amis que cet homme qui était... assez agnostique au départ, a été un de mes plus fidèles paroissiens. Plus fidèles paroissiens par la suite. Alors, il y a des surprises, parce que, évidemment, on peut dire un type qui ne peut pas recevoir le pasteur, il ne faut pas aller lui jeter des perles comme les morceaux. Non.